Métaphysique, Philippe, 23 décembre 1982, Rimes.
Nous allons continuer le problème de la relation après vous avoir montré l'importance, comment de fait la relation prend cette signification particulière dans la philosophie d'Aristote, l'être le plus débile, et comment il y a la vengeance de l'être débile, toujours comme ça, le petit dernier, la vengeance de l'être débile dans la philosophie néo-hégélienne avec Hamelin, ou alors le petit dernier devient l'être principal. C'est très curieux ces choses-là, vous voyez, c'est que il y a quand même quelque chose comme cela dans le point de vue de la relation. Comment la relation, qui peut être une relation de raison, une relation réelle, et donc qui montre la fragilité de la relation, puisque c'est un être qui peut être réel et un être de raison, c'est-à-dire que l'intelligence est capable de créer des relations, et elle en crée. C'est la seule chose qu'elle est capable de créer. Là, elle court derrière Dieu. Dieu crée des substances. Plus exactement, Dieu crée, c'est pas juste de dire que Dieu crée des substances, Dieu crée des êtres existants, subsistants, qui impliquent la substance. Tandis que l'homme, par son intelligence, par son imagination, peut réaliser des formes nouvelles. Et cette forme qu'il peut réaliser, c'est des relations. Une relation, des formes expressives, des formes utilitaires, des relations. L'être de raison, l'universel, l'intelligence, le fait. Ça, nous essaierons de voir cela. C'est important de comprendre ce que c'est que l'universel. Vous le voyez en logique. Et c'est une chose sur laquelle il faut tout le temps revenir, parce que c'est intéressant de voir comment l'intelligence fabrique quelque chose qui lui est parfaitement comme naturel. Ce qui est le plus comme naturel auprès de nous, c'est l'être de raison. C'est l'être. Alors, c'est un être de raison qui est une relation. Alors, essayons de comprendre, à partir de cette petite topique rapide, ce qu'est la relation. Je pars de la relation que nous connaissons le mieux, la relation qui existe dans l'amour d'amitié. Et je reviens toujours à cette expérience de l'amour d'amitié, parce qu'elle est au cœur de notre vie. C'est vrai. Et puis elle a, l'avantage, c'est qu'elle part d'une attitude affective, et on réfléchit dessus. Comment dans la relation d'amitié, on est en présence, du moins, comment dans l'amour d'amitié, on est en présence d'une relation. La présence de l'ami à son ami. Et la présence est une relation. La présence n'a pas d'autre caractère que de ce point de vue, d'être quelque chose qui implique une point de vue de la relation. Alors, comprenons. Dans l'amour d'amitié, il y a un don réciproque. Il y a une mise en commun, la communia. Et à partir de là, il y a une relation réciproque de l'ami à l'égard de son ami. Ce n'est pas une relation dans un seul sens, c'est une relation réciproque. Cette relation réciproque implique donc un regard de l'ami à l'égard de son ami. Il y a donc un regard, être tourné vers. C'est cela qui caractérise en premier lieu la relation vers. Ce qui implique les deux termes corrélatifs. Ces deux termes corrélatifs sont l'ami qui est tourné vers son ami. Être l'ami de quelqu'un, c'est tourner vers lui. Et qu'on est tourné vers celui qui est notre ami, qui lui-même est tourné vers. Donc il y a deux relations, une relation réciproque. On est tourné vers, mais donc c'est n'est pas une relation simple. C'est une relation beaucoup plus complexe. C'est pour ça que je la prends, parce qu'elle est plus explicite, elle est parfaite. C'est une relation qui est réciproque. On est tourné vers, on est tourné vers. C'est intéressant dans la réciprocité qu'il y a. Alors cette réciprocité permet l'exercice parfait de la relation. C'est bien l'exercice de la relation qui se fait parfaitement. Les deux thèmes corrélatifs qui sont les deux amis. Mais vous comprenez que ceci, c'est très bien. Ça n'explique pas du tout ce que c'est que l'amitié. C'est quelque chose de très important, cet exercice. Mais les amitiés sont diverses. Et la diversité des amitiés provient de quoi? Elle provient de la diversité des mises en commun. C'est ça qui va faire la diversité de la relation. Qu'est-ce que vous mettez en commun? Qu'est-ce qui est mis en commun? On met en commun de faire un voyage ensemble. Alors chacun porte sa pomme et la donne à son voisin, puisque c'est amical. On l'emporte pour l'ami, on ne l'emporte pas pour soi. C'est la différence quand on fait un voyage seul et quand on le fait fraternellement avec un ami. On l'emporte pour l'autre et on se la donne mutuellement. C'est la mise en commun. La mise en commun. Je prends l'exemple du voyageur, parce que l'amitié des voyages représente quelque chose. Mais c'est passager, il peut y avoir quelque chose de beaucoup plus profond. La mise en commun d'un travail qu'on fait ensemble. On est ce qu'on a compris en commun. C'est vrai, c'est une manière d'être mise en la communion. La communion. Alors, où c'est de l'ordre de la pomme, la mise en commun, vous prenez d'Ève et d'Adam, c'est la pomme, l'échange, le fruit est beau et on l'échange, on le communique. Et puis, il y a la mise en commun de ce qu'on comprend au point de vue intelligence, la mise en commun des artistes. La mise en commun, alors au point de vue plus affectif, de nos désirs, de notre amour, de nos secrets. C'est cette mise en commun. C'est la mise en commun qui fonde l'amitié, le fondement. C'est pas l'exercice des deux termes corrélatifs. C'est le fondement qui permet cet exercice. Et qui donne un caractère particulier à cet exercice. L'exercice n'est pas le même, suivant que la communion est différente, suivant que la mise en commun est différente. L'amitié de jouissance, c'est uniquement la mise en commun du fait qu'on est joyeux d'être l'un à côté de l'autre. C'est la sensibilité. C'est la jouissance qui suit le fait d'être auprès de quelqu'un qu'on aime bien et qui nous attire. Alors, la mise en commun est donc sensible. La mise en commun est donc intellectuelle. J'aime cet ami, il est très intelligent, il m'aide à être intelligent. Et il me rend intelligent. Je ne suis intelligent qu'en présence de lui. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. À l'égard des autres, je suis complètement inhibé. Il suffit qu'il soit là pour qu'immédiatement ça se manifeste, je deviens intelligent. Et je suis capable de parler, je suis capable de dire des tas de choses. C'est vrai, ça existe. C'est bien évident, c'est l'intelligence. Ou alors c'est les secrets. Ou c'est l'amour, le don. Dans en commun, c'est très varié. La mise en commun, c'est quelquefois aussi, tout simplement, de réaliser une œuvre ensemble. Nous avons travaillé toute la matinée ensemble. C'est une mise en commun. Et à partir de là, il peut y avoir exactement comme le voyage. Le voyage, c'est aussi, c'est encore plus extérieur que l'œuvre, mais c'est une mise en commun. Et une mise en commun qui fait qu'on a fait du stop ensemble. Il n'y avait personne pour nous recevoir. Donc pendant une heure, on a prié les anges gardiens pour que ils envoient quelqu'un, personne n'a dû passer la nuit, sans rien du tout. On a tapé à la porte à quelqu'un, il nous a refusé. Donc on a eu le bonheur de Saint-François ensemble, d'être refusé à minuit quand on était gelé. C'est une béatitude à ce moment-là. Et on a chanté à ce moment-là un magnificat ensemble, plutôt que de dire zut, hein, invraisemblable, vous êtes quand même les gens et secouer la poussière de nos pieds. Non, on a chanté un magnificat ensemble. Vous voyez, on a vécu quelque chose ensemble. Et c'est comme les vieux soldats qui étaient dans les tranchées en 14 ans. Et quand ils se retrouvaient, c'était immédiatement les vieux souvenirs des tranchées qui en venaient. La mise en commun auprès du feu le soir. Mais qui font une amitié, une véritable amitié. C'est une amitié. C'est une amitié, c'est peut-être pas très très fort. Quoique quand on a été en commun, ensemble, en face d'un danger, ah, ça nous. La mise en commun, ça nous. C'est le nœud. Très mystérieux, ça. Comment deux êtres peuvent être liés ensemble par cette mise en commun, cette koinonia, qui est voulue et qui est, selon les circonstances, peut-être d'une très grande intensité, qui n'est pas, voyez, quelque chose de prémédité. Ordinairement, quand c'est prémédité, c'est un peu factice. C'est curieux. On va mettre en commun, je ne sais pas, les talents que j'ai, et puis l'autre va mettre en commun les talents qu'il a. Ça ne colle pas. Et c'est vrai, de temps en temps, ça ne colle pas. De temps en temps, ça marche. C'est pas trop pourquoi. N'est-ce pas ? Et puis de temps en temps, non. On a essayé de travailler ensemble, et puis ça n'a pas abouti du tout. On se dit, mais on aurait, si j'avais travaillé seul, j'aurais fait beaucoup plus de choses qu'avec quelqu'un d'autre. Ça ne marche. Il y a une espèce de communion qui ne s'est pas faite, profonde. Tandis qu'au contraire, quand il y a une mise en commun profonde, c'est quelque chose qui se fait. La koinonia, la mise en commun. La mise en commun qui fonde ces relations. Ces deux termes corrélatifs, l'un par rapport à l'autre. Ces deux termes corrélatifs. On est en relation l'un par rapport à l'autre grâce à ce fondement. À ce fondement, à cette mise en commun profonde. Ajoutons, cette mise en commun unit deux personnes. Parce que le phénomène de l'amitié, c'est quand même deux personnes. Il y a les deux termes corrélatifs, il y a les deux personnes sujets de cette mise en commun. Nous avons donc, quand on veut analyser la relation, et l'analyse, encore une fois, dans l'amitié, nous allons faire une autre analyse pour que nous comprenions bien. Quand nous regardons ce que c'est que l'amitié, nous voyons que, de fait, il y a quand nous regardons ce que c'est que la relation, en quoi consiste l'amitié, cette relation de présence, cette relation amicale, implique toujours deux termes corrélatifs, on est face à face, une mise en commun, un fondement, et puis deux personnes qui sont le sujet même, la substance première, hein, le sujet même de cet exercice. Cet exercice se fait à travers deux personnes, grâce au fondement. Donc, il y a trois choses qu'on doit regarder quand il s'agit de la relation. On est donc en face d'une détermination dans l'ordre de l'être qui est tout à fait différente des autres. Quand il s'agit d'une qualité, la qualité est reçue dans un sujet. Et c'est le sujet qui est qualifié directement. C'est la substance concrète, individuelle, qui reçoit telle ou telle détermination directement. Tandis que lorsqu'il s'agit de la relation, les termes corrélatifs ne peuvent pas être reçus directement dans un sujet. Ils ont besoin d'un intermédiaire, d'un étatut, d'un intermédiaire, la mise en commun, la communia. Pourquoi ? C'est très curieux, ça. Vous voyez, à la différence de tous les autres accidents, de toutes les autres qualités qui viennent qualifier un sujet, c'est qu'il y a deux. Le sujet qui reçoit et la détermination. Là, la détermination est-elle l'exercice des termes corrélatifs, est-elle la mise en commun? Il y a deux choses. Je prends un autre exemple. Un autre exemple, alors beaucoup plus simple, de ce que représente une relation de similitude. Je suis en relation de similitude avec quelqu'un, nous avons le même type d'intelligence. Je prends ça parce que c'est plus clair. C'est plus clair l'intelligence. On voit mieux les similitudes dans l'ordre de l'intelligence que du côté du goût. On pourrait le prendre au point de vue du goût aussi. Nous aimons les mêmes chocolats. Heureusement que tout le monde n'aime pas les mêmes chocolats. Heureusement, parce que alors ce serait effrayant. Mais non, on aime ces mêmes chocolats, le même goût. On a la même forme d'intelligence, la même forme d'intelligence qui fait une relation de similitude. La similitude, c'est d'avoir une relation d'unité dans l'ordre de la qualité. Donc vous retrouvez les deux termes corrélatifs, les deux sujets, et vous retrouvez la qualité qui est fondement de cette similitude. Parce que cette similitude, elle est où? Dans l'ordre de l'intelligence, ou dans l'ordre du goût, ou dans l'ordre de l'art, du goût, de l'art, dans l'ordre de l'efficience. Nous sommes capables de réaliser la même œuvre à peu près de la même façon, avec la même rapidité, ou au contraire avec deux rapidités différentes, mais nous réalisons le même petit travail se fait en commun, et nous mettons en commun les arrivants. Donc il y a une qualité commune qui fonde. Nous retrouvons le fondement, la qualité, de termes et de sujets. Si vous regardez la relation d'égalité, c'est la même chose, mais c'est dans l'ordre de la quantité. Le fondement de la quantité, on pèse le même poids, 110 kilos. Ça, c'est l'avantage, c'est que ça n'existe pas dans la communauté. Ça va. 110 kilos. Nous pesons tous les deux 110 kilos. Alors, nous avons une relation d'égalité. Nous sommes égaux dans le poids. En Suisse, il y a la relation des contemporains, parce qu'ils sont nés la même année. Alors, ils se retrouvent par an, faire un voyage des contemporains. C'est très très bien. Ça fait amitié de voyage, vous voyez, et puis une relation, on est né la même année. On est né la même année, oui, c'est ça joue. Alors, on est né le même mois. On est né le même mois. On est né sous la même planète. Ça joue encore mieux, vous voyez, c'est les précisions du fondement. C'est toujours une relation de similitude ou une relation d'égalité, ça dépend. Que quand on est le même lieu, le même temps, c'est un mélange hein, de la quantité, le temps, et le point de vue de la qualité. Donc, dès que vous réfléchissez sur ce que c'est qu'une relation, c'est ça qui est intéressant ici, dès qu'on réfléchit sur ce que c'est qu'une relation, vous voyez qu'une relation implique toujours deux termes, un fondement et un sujet. Et deux sujets. Toujours. Autrement, il n'y aurait pas de relation. Sauf quand vous êtes en face d'une relation d'identité. Ça, c'est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent leur identité. Qu'est-ce que c'est que la relation d'identité? Ils ont perdu leur identité aujourd'hui. Non, ils cherchent leur identité. Alors, dans la relation d'identité, vous comprenez, c'est on est seul à la porter. On est seul à la porter, mais on fait bien de termes corrélatifs. Toujours. Pourquoi cherchez-vous votre identité? C'est parce que vous avez l'expérience de la complexité. Est-ce que j'ai bien ma relation d'identité? Quand je suis avec telle personne, je parle comme ça. Quand je suis avec une autre personne, je parle autrement. Et alors, tout d'un coup, les deux personnes à qui je parlais se retrouvent et disent « Ah, c'est pas la même personne. » Oui. À cause de ça, c'est la diversité des travaux et des occupations qui fait que, de temps en temps, il y a une espèce de dualité qui se fait. Alors, quand ça se pousse un peu trop, on devient malade, schizophrénie, ça, c'est très, très dangereux. Tous les matins, vous vous réveillez en vous disant, est-ce que c'est moi qui me suis endormi hier au soir dans le même, au même endroit, ou est-ce que c'est pas moi? Ou tout simplement, après avoir subi un cours, vous dites, et puis vous allez prier, est-ce que c'est la même personne qui subit le cours et qui va prier? J'ai en moi deux êtres, un être intelligent, un être qui prie. Quand je prie, j'adore et je reconnais mon néant. Et quand je suis intelligent, je reconnais mon autonomie. Alors c'est quand même quasiment pas du tout. Alors le problème de l'identité, est-ce que c'est la même personne qui fait ça?
Est-ce qu'on peut parler d'une relation de conditionnement?
Ah, ça on verra. Pas maintenant. Vous voyez, je parle ici, ça viendrait dans l'identité. Vous êtes trop saisi par votre conditionnement, vous vous demandez si vous êtes vous-même. Parce que le conditionnement vous multiplie. Le conditionnement vous met dans la diversité. Et la relation d'identité, c'est retrouver son unité. Alors pourquoi ce problème se pose aujourd'hui? C'est parce que les gens oublient leur finalité et qu'ils sont dans le conditionnement. Alors dans le conditionnement, ils sont multiples en raison de leur fonction. J'ai deux grandes fonctions à remplir dans ma journée, j'en ai trois à remplir dans la journée. Alors je ne sais plus très bien où donner de la tête. Hein, on dira ça couramment. J'ai trop de responsabilités, oui, je donne de la tête. Donc vous êtes en train de perdre votre identité parce que vous êtes perdu dans le conditionnement. Oui. Alors, je dirais que le conditionnement perd notre identité, nous n'arrivons plus à recouvrir notre identité. Ça, c'est un petit problème d'à côté. Ici, je cherche d'abord qu'est-ce que c'est que la relation, puis la diversité des relations. Il faut tout de suite voir les deux problèmes ensemble. Qu'est-ce que c'est que la relation? Alors, je vois que la relation, c'est être le plus débile. Il est tellement débile qu'il a besoin d'un fondement. Donc il n'a pas de structure en lui-même. C'est très très curieux. Il n'a pas de structure en lui-même. S'il avait une structure en lui-même, il n'aurait pas besoin de fondement. La qualité a une structure en elle-même, elle n'a pas besoin de fondement. Elle est à elle-même son propre fondement, parce qu'elle est à elle-même sa propre détermination. Tandis que la relation n'a pas de structure en elle-même. Elle est tournée vers. Donc elle est comme l'éclatement de l'être. Et c'est vrai, c'est l'éclatement de l'être, c'est d'être tourné vers un autre. Un être tourné vers un autre, c'est un être qui vraiment n'a pas de structure en soi. Et parce qu'il n'a pas de structure en soi, il a besoin d'un fondement pour exister. Autrement, s'il n'avait pas de fondement, il n'existerait pas, il serait purement éclatement. Les deux termes relatifs expriment l'éclatement de l'être. On est tourné vers. Très très curieux. C'est juste l'inverse, vous voyez, de la substance qui donne à l'être son autonomie, son intase, comme on dit aujourd'hui, opposé à l'extase, vous comprenez? L'extase, c'est d'être tourné vers l'autre, tandis que l'intase, c'est tourné vers soi. Alors on est stabilisé vers soi. Ça, c'est l'égoïsme métaphysique de l'être. L'égoïsme métaphysique de l'être, c'est la substance. La générosité philosophique de l'être, c'est la relation. Alors j'opte pour la relation, puisque je suis généreux. Alors je me jette dans les bras de n'importe qui. Parce que je suis généreux, je suis tourné vers, toujours dans un état extatique. C'est très très bien, quand vous tombez dans les bras de Dieu, ça va. Mais quand c'est pas très bien de l'extase, tourné vers, on est tourné vers, on est sorti de soi. Alors quand il n'y a plus que cela, je comprends qu'au bout d'un certain temps, mais qu'est-ce que je suis? Parce que je suis tourné vers, mais s'ils sont multiples, vous voyez, je change de registre. Tourner vers. La relation comme telle n'a pas de structure, parce qu'elle est vers l'autre, donc elle n'a pas de structure. Elle a besoin du fondement pour se structurer, pour exister, tout simplement, parce que tout être implique une détermination. Or, la relation comme telle n'implique pas de détermination, parce qu'elle est tournée vers. Elle est relative. C'est très curieux, ça, il faut arriver à le penser. On peut le penser, philosophiquement. On peut arriver à penser ce que c'est qu'une relation. Il faut arriver à penser ce que c'est qu'une relation pour essayer de comprendre ce qu'il y a de tout à fait particulier dans l'ordre de l'être. Parce que c'est l'être qui est comme ça. L'être demande l'éclatement. C'est curieux. L'être tel que je le constate. Je ne parle pas de l'être de Dieu, mais je parle de l'être tel que je le constate. C'est-à-dire l'être physique, l'être limité que je vois autour de moi, qui est cette réalité. Eh bien, je vois qu'il implique cette attitude tout à fait particulière d'être sorti de lui. Il est d'abord sa propre détermination. Et nous avons vu, source de toutes les déterminations, la substance. Alors que de l'autre côté, il est sorti de lui. Il est tourné vers. Curieux, ça. Et ça, c'est l'être. Hein. Je le constate, et je ne l'invente pas, je constate. La relation existe dans l'ordre de l'amitié. La relation existe dans l'ordre de la similitude. La relation existe dans l'ordre de l'égalité. Tout ça, ça existe. Les relations, je sais très bien ce que c'est. Eh bien, c'est cette exigence de l'être d'éclatement. Le dépassement par rapport à ce qu'il est en lui-même. C'est très intéressant, ça, de voir qu'au niveau des prédicaments, au niveau des constatations, je constate qu'il y a ça dans l'ordre de l'être. L'être est éclatement. Il demande de tourner vers l'autre. Oui, c'est pour ça qu'il y a un égoïsme de l'être et une générosité de l'être. Il y a un dépassement de l'être. Donc il n'y a pas que l'égoïsme de l'être. L'être n'est pas uniquement égoïste. Hein. Non, l'être est tourné vers un autre par le point de vue de la relation. Alors, on voit que cet être, n'ayant pas de structure en lui-même, a besoin d'un fondement. Alors, quel est le lien entre fondement et terme corrélatif? C'est intéressant de voir ça. Quel est le lien entre les deux? Est-ce que c'est le fondement qui spécifie ou est-ce que c'est les termes corrélatifs qui spécifient? Alors là, il y a des grandes discussions de Jean de Saint-Thomas là-dessus et des scolastiques qui se sont demandé, et c'est une très belle question, c'est une question qu'on doit se poser, c'est pas une question secondaire, qu'est-ce qui détermine la relation? Est-ce que c'est son fondement, est-ce que c'est son exercice? Ou est-ce que c'est les termes corrélatifs? Bien, je crois qu'on doit dire ceci, que le fondement spécifie, je vois tout de suite, hein, dès que je regarde le point de vue de l'amitié, je vois que c'est la mise en commun, la communion, spécifie des divers types d'amitié. Donc, c'est bien le fondement qui spécifie. Dès que je regarde la relation de similitude ou la relation d'égalité, je vois que c'est le fondement. Alors, je peux dire que le fondement spécifie, mais que ce fondement spécifie d'une manière fondamentale ces fondements, et que l'exercice se fait dans un terme corrélatif. Alors, cet exercice, il ne faut pas dire qu'il est n'importe lequel, hein. C'est l'exercice de tel fondement, et donc la spécification ultime, on pourrait presque dire, c'est très difficile et très délicat, on pourrait presque dire que dans la relation, il y a deux spécifications, une spécification fondamentale et une spécification ultime. Je crois qu'il faut le dire, parce que dès qu'on est en face du relatif, vous voyez, toutes nos analyses habituelles craquent. On est devant un être qui nous échappe tout le temps. Tellement difficile de savoir qu'est-ce que c'est que la cuivité de la relation. Qu'est-ce que c'est que la relation? Ça craque. Alors on est obligé, je crois, ce qui explique comment il y a eu la grosse discussion, au point de vue scolastique, entre le fondement qui spécifiait et le point de vue des termes corrélatifs qui se spécifient eux-mêmes. Je crois qu'on doit maintenir que le fondement spécifie fondamentalement, mais que ce fondement ne spécifie parfaitement que dans l'exercice des termes corrélatifs. Autrement dit, la relation ne peut pas se séparer de son fondement et de ses termes corrélatifs. C'est les deux. La relation implique les deux. Autrement, je ne suis plus devant la relation. C'est une analyse que je fais et je vois que, de fait, cet accident particulier implique ces deux termes corrélatifs et son fondement. Et donc la spécification se fait pleinement à l'égard du fondement et des termes corrélatifs. Je ne peux pas séparer, puisque les deux font partie de l'être propre de la relation. Autrement, je pourrais séparer les deux. Ça pose un très gros problème, ça, ce que je dis là. Ça pose un très gros problème pour le théologien. Vous voyez, quand saint Thomas fera, alors ça mettait ça en nota bene, parce que ça va vous corser le problème, quand saint Thomas met dans son analyse à l'égard de la relation vis-à-vis de la très sainte Trinité, qu'il y a l'âme et le hymne, et qu'il dit que dans la très sainte Trinité, je garde uniquement le âme, parce que le âme, c'est la relation dans ce qu'elle a de plus elle-même, le hymne, c'est l'inhérence dans le sujet. Alors c'est l'aspect accidentel de la relation. Vous voyez, quand je fais cette séparation entre les deux, le havre, c'est le verre. Alors j'aurais la tentation de dire oui, voilà ce qu'il y a de tout à fait spécifique dans la relation, tandis que la mise en commun, c'est l'hymne. Et donc c'est accidentel. Alors à ce moment-là, je fais une coupure entre les deux. Et donc l'aspect spécification, ce qui spécifie la relation, c'est le havre. Et le hymne est matériel. Alors, c'est pas vrai de dire ça. Et c'est ça qui est très difficile. C'est très difficile à bien saisir Ce que fait la distinction de cet âme est très simple. Lui, l'âme, une fois qu'on a compris ça, et puis comme c'est dit en latin, ça va encore mieux. Là, on dit âme, c'est clair, clair. Âme, c'est pas clair du tout. Le hymne n'implique pas seulement le point de vue du fondement, ça implique le sujet. C'est l'inhérence dans le sujet. Vous voyez ? Donc c'est l'inhérence, c'est l'aspect accidentel de le had. Et le had implique l'exercice des deux termes, mais implique aussi le fondement qui permet cet exercice. Autrement, vous retomberiez en disant que le had spécifie, puisque c'est l'élément formel. Donc la distinction du in et le had ne correspond pas exactement à l'analyse que nous faisons ici. C'est deux choses différentes. Il faut être attentif à ça. Donc ça, il faut être attentif à ce que la distinction que fait saint Thomas, pour ceux qui s'intéressent à la théologie de saint Thomas, dans l'histoire de la très sainte Trinité, ça joue un très grand rôle, ça, dans cette distinction que fait saint Thomas. Et puis la distinction que nous faisons ici. C'est pour ça que je me mets en nota bene. Parce que ça, c'est de l'utilisation du théologien de la relation. Le théologien utilise la relation à sa propre finalité. Du théologien pour une analyse philosophique. Et maintenant, une analyse philosophique n'est pas adéquate à l'utilisation du théologien. Et c'est un des cas où on voit très bien que le théologien massacre la philosophie pour l'utiliser. C'est très vrai, il massacre la philosophie pour l'utiliser. Tandis que le philosophe, lui, il veut analyser avec toute la rigueur de l'analyse, il dit deux termes corrélatifs, la mise en commun et le sujet. C'est pas la même chose. Alors comment trouver le in et l'âme, c'est autre chose. Donc ne faites pas trop vite un parallélisme. Vous voyez ? Ne faites pas trop vite un parallélisme. Et comprenez que l'analyse philosophique de la relation implique ces trois moments. Et comprenez bien ces trois moments. Ensuite, vous pourrez vous poser la question, quelles sont les relations avec le in et le had de saint Thomas. Mais il faut d'abord comprendre ce que c'est que la relation. Donc voilà le problème de ce qu'est la relation. Vous voyez que la relation comme telle a un être extrêmement débile, puisqu'il est l'éclatement de l'être. Donc en tant que l'éclatement, il n'a pas son caractère spécifique. Il est tourné vers et dépend de l'autre. Mais pour pouvoir être tourné vers, il implique un fondement. Et ce fondement lui donne son caractère spécifique. Et ce fondement ne peut pas se séparer des termes corrélatifs. Deuxièmement, vous allez mieux comprendre, j'espère. Nous allons maintenant regarder quels sont les différents types de relations. Si le fondement joue ce rôle spécificateur, je peux donc dire qu'en regardant les différents fondements des relations, j'aurai tout de suite la diversité des relations. Premier fondement, la quantité. Il est sûr que la quantité peut fonder une relation. Une relation d'égalité, une relation d'inégalité. Facile à comprendre. La quantité est dans le sens très très nombreux, vous voyez, dans le sens de la quantité au point de vue philosophique, c'est-à-dire quantité discrète et quantité continue. La quantité continue la grandeur, la quantité discrète le nombre. Vous avez donc deux types de relations au niveau quantitatif, qui est le point de vue d'égalité, l'égalité du nombre, l'égalité de la grandeur, l'inégalité. Nous allons faire des groupes de 10. Ces groupes seront égaux, parce que tous avaient un du coup 10. Oui. Mais ces groupes seront peut-être très différents, parce que les 10 seront les maigres d'un côté, et les gros d'un côté, l'autre. Alors il y aura le groupe des poids lourds et le groupe des poids maigres, mais ils auront le même nombre. Alors ils auront égalité d'un côté, inégalité de l'autre. C'est très simple, hein. On fait ça tout de suite. Hein. Et on voit tout de suite que le fondement, c'est la quantité discrète et continue. les deux espèces de quantités qui donnent immédiatement deux fondements différents. Bon, il y a une première relation qui se fonde sur la quantité. C'est la relation la plus simple que tout le monde reconnaît, celle-là. Ça, c'est bien évident que c'est facile à comprendre, l'égalité et l'inégalité dans ce domaine-là. Il y a la qualité, c'est bien beaucoup plus complexe. Parce que la qualité est plus complexe que la quantité, comme nous le verrons. La qualité est la vie des quantités de diversité de qualité. Vous avez la vertu. Prends la vertu. Les vertus. Vous avez des relations parmi les êtres vertueux. Que tous les êtres vertueux se mettent dans un endroit. Que tous les autres êtres moins vertueux. Vous voyez, vous avez d'un côté les uns, et de l'autre côté les orgueilleux. C'est très simple, parce que c'est les vertueux, les uns. Ceux qui ont conscience de leur vertu, ceux qui ont conscience de leur non-vertu, c'est quelquefois les plus vertueux, vous voyez. Ça peut exister, ça. Parce que la vertu ne nous donne pas conscience de notre vertu. Elle nous donne conscience de notre vertu, mais elle nous donne conscience aussi que nous ne sommes pas parfaitement vertueux. Alors on peut insister sur le celui qui n'est pas parfaitement vertueux tout en étant vertueux, qui se reconnaît donc comme étant non vertueux. Alors que celui qui est vertueux et qui n'est pas parfait, et qui, parce qu'il n'est pas parfaitement vertueux, reconnaît qu'il est vertueux, alors à ce moment-là, il se met dans le point de vue de la vertu. Vous voyez, la complexité du problème, de la relation des vertueux. C'est très bien, c'est ça qu'il faut comprendre, les vertueux. Il y a le point de vue des puissances intellectuelles. Non, c'est plus facile, ça. Hein. C'est très difficile de jauger notre vertu. C'est très difficile. Vous voyez, au bout d'un pan de 6 mois de noviciat, 2 mois de noviciat, 3 mois de noviciat, on a l'impression d'avoir régressé. On était plus vertueux avant d'entrer. C'est très curieux. C'est très, très curieux. Dès qu'on est 3 mois de noviciat, on se dit, pas si, je croyais de vertu, je croyais très capable de faire ça, incapable. Vous voyez, on s'aperçoit de ça, premier dégrossissage. Hein. Parce que ça tombe, des choses. Alors au bout de 3 ans, on recommence à être vertueux, n'est-ce pas? On avait profession. Alors on recommence à être vertueux, ça me dit, ça y est, moi, alors que la profession n'a rien à voir avec la vertu. Rien du tout. C'est pas du tout dire, on va faire profession parce qu'on est vertueux, mais pas du tout. On fait profession parce qu'on tend vers la vertu, qu'on tend vers l'amour de Dieu. Ce n'est pas du tout un brevet de perfection. Voyez, alors celui qui prend la profession pour un brevet de perfection, il se met le doigt dans l'œil. La vie religieuse, ce n'est pas les parfaits. Heureusement, ce serait une bande de pharisiens. La vie vertueuse, la vie religieuse, c'est ceux qui tendent vers la sainteté. Ils tendent vers un plus grand amour. Pour un plus grand amour. C'est uniquement ça. Vous voyez, donc c'est très difficile de prendre conscience des similitudes dans la qualité, les similitudes. Quand on est très vertueux, on trouve toujours que le voisin est beaucoup plus vertueux que soi. C'est un signe de vertu, ça. Considérer que le voisin est beaucoup plus vertueux que soi. Alors quand on commence à considérer que le voisin est beaucoup plus... ça pousse. Et vous apercevez que vous êtes beaucoup moins vertueux. Donc, similitude, dissimilitude, dans l'ordre des vertus, dans l'ordre de la puissance intellectuelle, c'est la même chose. La diversité des intelligences, quand on commence à réfléchir sur l'intelligence, alors on commence à réfléchir sur l'intelligence ordinairement quand on fait de la philosophie. Je dis ordinairement, quand on fait de la philosophie, on commence à réfléchir sur ce que c'est que l'intelligence. Et la diversité de l'intelligence, parce qu'avant, on ne réfléchit pas. Celui qui fait des maths, il fait des maths. Il ne réfléchit pas sur ce que c'est que l'intelligence, il fait des maths. Tout simplement. Tandis que ce qu'il prône de la philosophie, c'est de se mettre à réfléchir sur l'intelligence. Ce qui est très difficile. On fait de la philosophie et on réfléchit sur l'intelligence qui fait de la philosophie. Alors au bout d'un certain temps, dès qu'on réfléchit sur l'intelligence qui fait de la philosophie, on a l'impression de retourner en arrière. On n'avance pas. Tandis que celui qui fait uniquement telle ou telle science particulière, il avance. Il étudie le programme. En philosophie, non, on n'étudie pas de programme. Mais on essaie de voir ce qu'est l'intelligence et les limites de l'intelligence. Donc vous avancez et vous régressez. C'est extraordinaire, ça. C'est le propre de l'intelligence, ça. C'est l'intelligence creuse et elle avance. Elle avance et elle creuse. Alors, chez certains, quand on creuse davantage, on avance moins. Chez d'autres, on avance plus. Le progrès d'extension, le progrès d'intensité. Le progrès de la concentration. C'est ça le propre de l'intelligence. Je m'aperçois à ce moment-là que l'intelligence est quelque chose de très complexe. Alors, la similitude et dissimilitude, il y a des intelligences différentes. Une diversité d'intelligence. Et une diversité d'intelligence qui met des similitudes différentes. Capacité d'aimer. C'est dans cette capacité d'aimer, vous voyez, que je pourrais voir quelqu'un qui me semble être merveilleux dans sa capacité d'aimer. Alors, et par le fait même, si lui me découvre aussi dans la même capacité d'aimer, il y a une similitude. Et puis il y a les dispositions naturelles, et ainsi de suite. Toutes les qualités sont les fondements. Fondements d'une certaine similitude et d'une dissimilitude. Bon, voilà les deux premiers fondements. Troisième fondement de la relation, c'est l'action et la passion. Vous savez bien, dans toute communauté, qu'il s'agisse du Sénat ou qu'il s'agisse de toute espèce de communauté, il y a toujours certains qui sont actifs et ceux qui sont passifs. Il y a les patients et puis il y a ceux qui agissent. Très curieux. Très curieux de voir ça. Mais ça se fait toujours, ça. C'est comme ça. Il y en a qui gémissent. Il y en a qui mordent les dents. Qui montrent les dents et qui mordent. Tu vois, il y a l'action et les passions. Qui sont là pour attendre de bons morceaux. Tu vois, l'actif et le passif. Chacun d'entre nous, alors, l'action et la passion vont créer de nouvelles relations. Vous voyez, dans l'amitié, il y a toujours un actif et un passif. Toujours. Ça dépend de l'âge, ça dépend des circonstances. Mais il y a toujours actif et passif. Attendez, alors, l'amitié, est-ce qu'elle se situe au niveau de la qualité ou est-ce qu'elle se situe au niveau de l'action et de la passion? C'est pas si commode que ça quand j'ai essayé de comprendre. J'ai dit tout à l'heure la cognomia qui fait le fondement. La mise en commun. La mise en commun implique une action. La mise en commun implique une passion. La mise en commun au terme, c'est une qualité qui est mise en commun. Alors, vous voyez que c'est difficile. Dans l'ordre de l'amitié, il y a l'action, le don. On se donne. Se donner, c'est actif. Et recevoir le don, c'est passif. On reçoit. Il y en a qui se donnent plus, il y en a qui sont plus passifs dans l'ordre de l'amitié. C'est comme ça. Il peut y avoir encore, je prends un autre type. Il y a l'enseignement. Normalement, celui qui enseigne, le maître et le disciple, il doit y avoir une relation entre les deux. Le disciple pâtit, par définition, c'est ça. Tant qu'il est disciple, jusqu'au moment où il pâtit d'une manière tellement violente qu'il rejette. Et alors à ce moment-là, il y a une relation différente. Ce n'est plus la relation action-passion, c'est une autre relation. Mais c'est dans cette dialectique du maître et de l'esclave. Hein. Hegel, d'une façon très particulière, il voit que c'est ça qui l'intéresse, c'est la réaction violente de l'esclave par rapport au maître, qui arrive à supplanter le maître. Là, c'est le patron d'ouvrier, ça va bien. Mais le maître et le disciple. Mais tout 68 s'explique comme ça. Si on essaie de comprendre philosophiquement, c'est que la relation d'amitié entre maître et disciple n'existant pas, on est en face d'une relation de rivalité. Comme disait l'autre, quand il commençait à enseigner, j'en ai bavé, il faut qu'il en bave. Vous voyez, c'est une manière de perpétuer la relation d'action et passion. C'est une manière élégante de voir la passion et l'action. Alors, c'est maître et disciple, parent et enfant, une relation. Époux et épouse, c'est quelquefois action et passion. C'est quelquefois une amitié, mais une amitié inclut action et passion. Vous voyez ? Alors, ce sera des types différents. C'est infini, ça. Vous avez là toutes les relations possibles qui forment une communauté humaine. Une communauté humaine est faite d'action et de passion. Il faut que tous, dans une communauté parfaite, il faut que tous qu'on soit actifs et que tous on pâtisse. Tandis que dans une communauté imparfaite, il y a un groupe qui agit et un groupe qui pâtit. Ça, c'est jamais bon. Il faut que tous agissent et que tous pâtissent. Et alors, autant que possible, avec harmonie. Et autant que possible, en vue d'un bien, en vue d'une fin. Alors, s'établit des relations action et passion. Là, il y a vraiment une relation tout à fait particulière de celui qui agit, qui est capable de communiquer quelque chose, agence, agite, similé, sibi. Il ne faut jamais oublier ce petit principe, ce petit adage, c'est un adage. L'agent agit semblablement à ce qu'il est. On ne peut communiquer aux autres que ce qu'on est. Vous ne pouvez pas communiquer quelque chose que vous n'avez pas. Donc, agence, agit, similé, sibi. Il agit semblablement à ce qu'il est. Et alors, il communique au patient qui reçoit. Et le patient est capable de recevoir dans la mesure où il est patient. Et donc, s'établit une certaine symbiose entre l'action et la passion qui implique une relation réciproque. Mais quand je dis relation réciproque, comprenez bien, elle est réciproque qualitativement. Parce qu'elle est tout à fait dissemblable. L'un agit, l'autre pâtit. Mais il faut un équilibre entre les deux. Il faut un équilibre, justement, de réaction. Et c'est en ce sens-là qu'on va s'établir une amitié. Vous avez alors la relation réciproque parfaite, donnant-donnant. Tandis que quand cette relation n'est plus parfaite, et qu'il n'y en a qu'un qui agit, et qui agit toujours, et les autres pâtissent le plus qu'ils peuvent, n'est-ce pas, le plus loin possible, cette relation, au bout d'un certain temps, craquera. Impossible autrement. Il faut qu'il y ait une relation mutuelle pour créer une communauté. Parce que quand il n'y a que action et passion, à l'extrême, il n'y a pas de communauté. Alors vous voyez, là, il y a quelque chose, un problème très important de voir que nous sommes en présence d'une relation d'un type particulier qui repose sur l'action et la passion. Alors, je peux me poser la question, existe-t-il d'autres fondements ? Regardez les catégories. Puisqu'au fond, là, j'ai pris les catégories. Quantité, qualité, action et passion. Existe-t-il d'autres fondements ? Ça, il faut se poser la question très loyalement. Existe-t-il d'autres fondements que ces fondements-là ? Alors, je l'ai déjà dit, il peut y avoir comme ça le fondement du lieu. Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. Ils sont de Bethsaïde. Alors, c'est une relation de lieu. Alors, quel genre de type de relation qui fait qu'on est du même lieu, du même patelin, de la même ville? Dans la grande ville, ça ne signifie pas grand-chose, parce qu'on peut être né dans deux extrémités. Tandis que quand on est dans le même patelin, on est assez proche l'un de l'autre. Alors vous voyez, c'est curieux ça. La similitude dans le lieu. La similitude dans le temps. Ce sont des fondements, ça il faut le reconnaître. Ce sont des relations secondaires, mais ça fait des relations particulières, ce que je vous disais tout à l'heure. Et on peut les instituer, ces choses-là. Y a-t-il d'autres relations ? Le situs. Il faut passer toutes les catégories. Et regardez si les catégories peuvent devenir un fondement par rapport à une relation particulière. Est-ce que la relation peut être fondement d'une autre relation ? Alors on dirait à l'infini, vous voyez ? Eh bien non. La relation ne peut pas être fondement d'une relation. Et on comprend très bien, parce que c'est un être trop débile. Donc il ne peut pas fonder une relation. Et donc la relation ne peut pas fonder notre relation. Est-ce que la substance peut fonder une relation ? Ah, alors là, j'arrive à votre problème de tout à l'heure. Est-ce que la substance peut fonder une relation ? La relation d'identité. elle est fondée sur la substance. Mais c'est une relation de raison, la relation d'identité. C'est pas une relation réelle. C'est une relation de raison. C'est moi-même qui me divise et qui essaie d'exprimer cette identité par rapport à moi-même. La relation d'identité est une relation par rapport à soi-même selon l'intelligence qui exprime ça. Donc c'est une relation de raison, la relation d'identité. C'est pour ça que c'est très souvent un faux problème de chercher son identité. En réalité, on cherche son identité parce qu'on a perdu sa finalité. Le vrai problème, c'est la perte de la finalité qui entraîne l'impossibilité de découvrir son unité. Et alors, découvrant plus son unité, on parle de son identité. Mais c'est un faux problème. Cherchez son identité, cherchez bien votre identité, vous ne la trouverez jamais. Cherchez au contraire quelle est la fin de votre vie, votre manière de vous finaliser. À ce moment-là, vous redécouvrez votre unité. Rien ne nous remet plus dans l'unité que de chercher notre finalité. Oui. Alors, vous comprenez, là se trouve le problème de la situation limite. Le problème de la situation limite, c'est justement dans l'impossibilité qu'on peut être de trouver sa finalité. Et la situation limite, elle provient de la quantité ou de la rapidité des événements qui fait que le conditionnement l'emporte sur la finalité. Et alors à ce moment-là, le conditionnement l'emportant sur la finalité peut devenir un obstacle à découvrir la finalité et donc à découvrir profondément son unité. Oui. Donc le conditionnement peut devenir un obstacle à découvrir profondément l'unité profonde qui est en nous, et cette unité profonde qui est en nous provient de notre finalité. Donc vous voyez que ce problème de la relation est un problème très important qui a sa répercussion au niveau psychologique, c'est évident, qui nous oblige d'essayer de comprendre les différents types de relations. Il n'y en a pas indéfiniment. Donc, je dois dire que la substance ne fonde pas une relation réelle. La substance ne peut fonder qu'une relation de raison. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.